Troisième conte de Yun Tianming. Le prince eau profonde. Lorsque la princesse Goutte de Rosée se réveilla à nouveau, il faisait déjà jour. La mer était passée de noir à bleu, mais la princesse la trouvait encore bien différente de celle des peintures qu'elle avait eu l'occasion de voir au palais. Cette immensité qui avait été dissimulée par la nuit s'étendait maintenant dans toute sa nudité. Sous les rayons de l'aube, la surface de la mer semblait déserte, mais dans l'imagination de la princesse, cet état n'était pas lié à la présence des tahotiers marins. C'était pour elle que la mer s'était vidée, un peu comme ces quartiers de vie au palais qui demeuraient déserts en attendant son retour. Le désir qu'elle avait exprimé à longue voile durant la nuit devenait à présent plus impérieux. Elle imagina qu'émergerait bientôt à la surface des flots un voilier qui n'appartiendrait qu'à elle et qui l'emmènerait au loin au gré des caprices du vent. C'était maintenant tant largesse qui agitait le parapluie pour la princesse. Le chef des gardes les salua depuis la plage juste à côté des flots et leur fit signe de le rejoindre. Quand elles furent parvenues à sa hauteur, il pointa la direction de la mer et lança « Regardez, l'île des tombes !» Ce ne fut pas l'île que la princesse vit en premier, mais le géant qui s'y tenait debout. C'était assurément le prince eau profonde. Il se dressait sur l'île de toute sa hauteur, comme une montagne solitaire posée sur la mer. Sa peau était cuivrée à force d'être restée longtemps exposée au soleil, et ses muscles saillants paraissaient être des plis de roche sur la montagne. Ses cheveux, volant dans la brise, étaient des arbres au sommet d'un pic. Il ressemblait beaucoup au prince sable glacé, mais il était plus robuste que ce dernier, et sa mine n'était pas aussi sombre. Son regard et son expression donnaient au contraire le sentiment à ceux qui l'observaient qu'il était aussi vigoureux et généreux que la mer. Le soleil ne s'était pas encore entièrement levé, mais le sommet de la tête du géant était déjà baigné par ses rayons dorés, comme s'ils étaient en feu. Il plaça son immense main en visière sur ses yeux et scruta le lointain. L'espace d'un instant, la princesse crut croiser son regard. Elle sauta en criant « Grand frère, eau profonde, je suis Goutte de Rosée, ta petite sœur, nous sommes ici !» Le géant n'eut aucune réaction. Il balaya du regard l'endroit où il se trouvait, puis il se déplaça et baissa la main en secouant la tête, l'air songeur, avant d'observer une autre direction. « Comment se fait-il qu'il ne nous ait pas vus ?» demanda la princesse, inquiète. « Qui verrait trois fourmis à l'horizon ?» fit le chef des gardes. Après quoi il se tourna vers Tante Largesse. « Je vous avais bien dit que le prince eau profonde était un géant. Vous aussi, vous l'avez vu ?»« Mais quand je le prenais dans les bras alors qu'il était enfant, il n'était qu'un tout petit bébé. Comment a-t-il pu grandir autant ?»« Mais après tout, c'est tant mieux. Personne ne pourra l'arrêter. Il punira ses fripouilles et retrouvera le portrait de la princesse. »« Il faut d'abord pouvoir lui faire savoir ce qui se passe ici. » lâcha le chef des gardes en secouant la tête. « Je dois y aller. Nous devons absolument y aller, sur l'île des tombes !» cria la princesse en s'agrippant à longue voile. « Nous ne pouvons pas, Votre Altesse. Cela fait des années que les tahotiers ont envahi la mer et personne n'a jamais pu accoster sur l'île, ni en revenir. » « N'y a-t-il vraiment aucun moyen ?» demanda la princesse en sanglotant. « Si nous sommes venus jusqu'ici, c'est pour aller chercher eau profonde. Tu dois certainement connaître un moyen. » En voyant les larmes danser dans les yeux de la princesse, Longue Voile fut pris de pitié. « Je n'en vois aucun. Princesse, nous devions nous éloigner du palais afin d'échapper à une mort certaine. C'est la raison pour laquelle je vous ai conduite jusqu'ici. Mais j'ignore depuis le début comment il est possible de se rendre sur l'île. Peut-être que nous pourrions lui envoyer un pigeon messager. Merveilleux, allons en trouver un. Mais à quoi bon? Même s'il recevait notre message, il ne pourrait pas lui non plus traverser la mer. C'est peut-être un géant, mais il ne pourra pas échapper aux crocs des tahotiers. Prenons d'abord notre petit déjeuner avant de décider quoi faire. Je vais le préparer. « Oh, ma bassine !» cria Tante Largesse. Avec la marée montante, la mer avait envahi la plage et emporté la bassine en bois dont s'était servie la veille la princesse pour se débarbouiller. La bassine se trouvait déjà à une certaine distance du bord. Elle était renversée et l'eau savonneuse utilisée la veille formait une écume blanche à la surface de la mer. On pouvait voir quelques tahotiers nager dans la direction de la bassine, leurs écailles acérées fendant les flots. Tout laissait penser que la bassine finirait en copeaux sous les coups de leurs terribles dents. Mais quelque chose d'incroyable se produisit. Les tahotiers ne croquèrent pas la bassine. Une fois pénétrés dans la zone où s'étalait la mousse, ils s'arrêtèrent de nager et se laissèrent flotter à la surface. Ils n'avaient plus rien de terrifiant. Au contraire, on aurait dit qu'ils étaient devenus des poissons indolents. Si certains remuaient encore lentement leurs nageoires caudales, ce n'était pas tant pour se déplacer que pour s'abandonner à un délassement total. D'autres se mirent même à flotter, leur ventre blanc tourné vers la surface. Tous trois regardèrent la scène avec effarement. « Je comprends ce qu'ils ressentent. On se sent si bien dans la mousse, si léger de la tête aux pieds. C'est comme si vos os avaient fondu, vous n'avez plus envie de bouger. »
« Les savons de Herxingen-Mosiken sont vraiment des produits de bonne qualité. Dommage qu'il ne m'en reste plus que deux. »«
C'est un savon très précieux, y compris à Herxingen-Mosiken, » dit Longuevoile. « Savez-vous comment il est fabriqué ?»«
Il existe une forêt magique à Herxingen-Mosiken, où poussent des mousseux. Les mousseux sont des arbres millénaires capables d'atteindre des hauteurs immenses. » En temps ordinaire, les mousseux n'ont rien de spécial, mais par grand vent, il en sort des bulles de savon, dont le nombre augmente selon l'intensité du vent. C'est à base de ces bulles que sont faits les savons. Il est toutefois très difficile de les recueillir car elles volent très vite dans le vent. De plus, elles sont presque entièrement transparentes et on les distingue mal. Pour les voir, il faut en fait pouvoir courir aussi vite que les bulles, de manière à se retrouver au repos par rapport à celles-ci. Seuls les chevaux les plus rapides du pays sont en mesure de rattraper les bulles des mousseux. Or, il n'y en a pas plus de 10 dans tout Herxingen-Mosiken. Lorsque les mousseux crachent leurs bulles, les artisans savonniers sautent sur leurs montures et galopent derrière elles, les attrapant avec un mince filet de gaz. Les bulles n'ont pas toutes la même taille, mais même les plus grandes, une fois dans le filet, éclatent et produisent une si petite substance qu'elle est invisible à l'œil nu. Il faut recueillir plusieurs centaines de milliers de bulles, parfois même des millions, pour faire un seul savon. Mais lorsqu'on met ce savon dans l'eau, il peut générer des millions de bulles, ce qui explique l'étendue de la mousse. Les bulles des mousseux n'ont presque aucune masse. C'est à cela qu'on reconnaît les authentiques savons de Herxingen-Mosiken. Ils ont le poids d'une plume. C'est l'objet le plus léger du monde, mais aussi le plus précieux. Les savons que possède tante Largesse ont sans doute été offerts par un émissaire de Herxingen-Mosiken à l'occasion du couronnement du roi. Et alors...
Longuevoile interrompit brusquement son récit et fixa la surface de la mer d'un air songeur. Il regarda les tahotiers flotter nonchalamment au milieu de la mousse blanche du savon de Herxingen-Mosiken. La bassine en bois, elle, était intacte.
« Je crois bien que nous avons trouvé le moyen de nous rendre sur l'île des tombes, » glissa Longuevoile en désignant la bassine. « Imaginez à présent que ce soit un petit bateau. »«
Il en est hors de question !» s'exclama tante Largesse. « Comment la princesse pourrait-elle courir un tel risque ?»
« La princesse restera ici, » affirma le chef des gardes en détournant son regard de la surface de la mer. À la détermination dans ses yeux, la princesse sut qu'il avait déjà pris sa décision.
« Si tu y vas seul, comment convaincras-tu le prince aux profondes ?» demanda la princesse, le visage rougi d'excitation.
« J'irai aussi, je dois y aller. »
« Mais même si vous parvenez sur l'île, comment pourrez-vous prouver votre identité ?» demanda Longuevoile en regardant la tenue de roturière de la princesse. Tante Largesse gardait le silence. Elle savait qu'il existait un moyen.
« Nous pourrons nous soumettre à une reconnaissance de sang, » dit la princesse.
« Non, princesse, vous ne pouvez pas y aller, c'est trop dangereux, » cria Tante Largesse, dont la voix était déjà moins résolue que quelques instants plus tôt.
« Crois-tu que je serai plus en sécurité ici ? fit la princesse en désignant le parapluie que Tante Largesse faisait tourner pour elle.
« Nous attirons trop l'attention. Sable glacé aura tôt fait de retrouver nos traces. Je peux peut-être échapper temporairement à la magie de chat d'aiguille, mais je n'échapperai pas à la garnison lancée à notre poursuite. Il est plus sûr de se rendre sur l'île des tombes. »
Et il en fut ainsi décidé. Le chef des gardes chercha la plus petite barque sur la plage et la fit aller par les chevaux jusqu'à l'endroit où l'écume des vagues pouvait lécher la proue. Il ne trouva aucune voile, mais dénicha une paire de vieilles rames sur une autre embarcation. Il fit d'abord monter la princesse et Tante Largesse, qui continuait d'agiter son parapluie. Il embrocha le savon de Erxingen Mosiken au bout de son épée, puis il la tendit à la princesse en lui disant de la laisser immerger dans l'eau tant que le bateau n'aurait pas accosté. Puis il poussa la barque et sauta à son bord lorsque l'eau arriva à hauteur de hanche. Longue Voile rama de toutes ses forces. La petite embarcation entraîna les trois compagnons dans la direction de l'île des tombes. Les écailles noires des tahotiers commencèrent à émerger à la surface de la mer, encerclant les skiffs. Assise à la poupe, la princesse maintenait dans l'eau l'épée au bout de laquelle était planté le savon de Erxingen Mosiken. De la mousse se forma rapidement tout autour et se mit à scintiller d'une lumière blanche et aveuglante sous les rayons du soleil. Les bulles de savon furent bientôt aussi hautes que la taille d'un homme. À mesure que la barque avançait, un long sillage blanc s'étendait à la poupe. Les tahotiers nagèrent d'abord de façon confuse dans la mousse, puis, envahis d'une merveilleuse sensation de volupté, ils s'allongèrent à sa surface, comme sur un tapis de velours blanc. C'était la première fois que la princesse voyait les tahotiers d'aussi près. En dehors du blanc de leur ventre, ils étaient entièrement noirs, on aurait dit des machines en métal. Glissant lentement à la surface, la barque laissait derrière elle une longue traînée de mousse qui paraissait être une ceinture de nuages tombée sur la mer. D'innombrables tahotiers approchaient des deux côtés et entraient dans la mousse comme des pèlerins rejoignant une rivière de nuages. Quelques-uns s'aventurèrent jusqu'à la proue et donnèrent des coups de dents dans la coque. L'un d'eux croqua même un morceau de la rame en bois que Longue Voile tenait dans la main. Mais tous furent bientôt si grisés par la traînée de mousse derrière le bateau qu'ils cessèrent d'attaquer l'embarcation. En regardant cette traînée de nuages blancs et mousseux poursuivis par une multitude de tahotiers ensorcelés, la princesse ne put s'empêcher de repenser au paradis dont parlait le pasteur du palais. La plage recula peu à peu et la barque se rapprocha de l'île des tombes. Tante Largesse cria soudain « Regardez ! On dirait que le prince eau profonde a rapetissé. » La princesse tourna la tête. Tante Largesse avait vu juste. Le prince était toujours un géant, mais il paraissait visiblement moins grand que lorsqu'il l'avait observé depuis la côte. Il leur tournait toujours le dos, scrutant d'autres directions. La princesse dirigea son regard vers Longue Voile qui continuait à ramer. Il semblait débordé d'énergie. Ses muscles puissants étaient bombés et ses mains robustes secouaient les rames comme une paire d'ailes en plein vol pour propulser l'embarcation vers l'avant. Il avait l'air né pour devenir marin. Il paraissait bien plus à son aise ici que sur la terre ferme.
« Le prince nous a vus !» hurla Tante Largesse.
Sur l'île des tombes, le prince eau profonde fixait en effet leur direction, pointant la barque du doigt. Le regard surpris, il remuait la bouche comme s'il voulait crier quelque chose. Il devait être stupéfait. Cette barque était la seule depuis des lustres à oser s'aventurer sur cette mer mortelle. Par ailleurs, plus l'embarcation avançait, plus le sillage derrière elle s'étendait. De là où le prince se trouvait, il devait avoir l'impression qu'une longue comète rasait la mer. Ils comprirent vite que le prince ne s'adressait pas à eux. À ses pieds étaient réunis des hommes de taille ordinaire qui paraissaient minuscules depuis la barque. On distinguait à peine leurs visages, mais on pouvait voir que tous regardaient dans la direction de l'étrange esquif. Certains d'entre eux agitaient les mains. L'île des tombes était jadis inhabitée. 20 ans plus tôt, quand Eau Profonde s'était rendue sur l'île pour pêcher,
Il était accompagné d'un tuteur, d'un précepteur ainsi que de quelques gardes. À peine avait-il débarqué sur l'île que les Tahotiers s'étaient regroupés en bancs serrés près de la côte, leur barrant le chemin du retour vers le royaume. Ils remarquèrent que le prince paraissait encore plus petit, comme si sa taille diminuait à mesure que la barque approchait de l'île. L'embarcation se rapprocha peu à peu du littoral, et ils purent voir distinctement les autres hommes. Ils étaient 8, la plupart habillés de vêtements qui semblaient taillés dans des voiles de bateau. 2 vieillards portaient néanmoins des habits de la cour, bien qu'ils soient très usés. Certains des hommes avaient la main sur la garde de leur épée. Ils accoururent vers la plage, suivis de loin par le prince. À ce moment-là, il ne faisait plus que le double de la taille de ses compagnons et ne ressemblait plus à un géant. Le chef des gardes accéléra sa cadence de rame et la barque fonça vers la côte. À la poupe, les vagues semblaient être des mains qui poussaient le bateau vers l'île. Il y eut un soubresaut et la princesse faillit passer par-dessus bord. La coque avait heurté le sable. Les hommes qui s'étaient précipités jusqu'à la plage restèrent à distance de la barque, craignant sans doute une attaque de Tahotiers marins. Mais 4 d'entre eux finirent par venir stabiliser l'embarcation et aider la princesse à mettre pied à terre. « Faites attention, la princesse ne doit pas quitter le parapluie !» cria Tante Largesse en descendant de la barque et en continuant à agiter le parapluie au-dessus de sa maîtresse. Le geste lui était maintenant familier et elle était en mesure de faire tournoyer l'objet d'une seule main. Les insulaires eurent bien du mal à dissimuler leur surprise. Ils examinèrent tour à tour le parapluie noir et la surface de la mer traversée par les skiffs. La traînée de mousse de savon de Erxingen Mosiken et les Tahotiers qui suivaient son sillage dessinaient une route noire et blanche qui raccordait l'île des tombes au royaume sans histoire. Le prince aux profondes arriva enfin sur la plage. Sa taille était désormais parfaitement ordinaire. 2 autres hommes paraissaient même plus grands que lui. Il adressa un sourire aux nouveaux arrivants. C'était celui d'un pêcheur bienveillant, mais la princesse reconnut en lui quelque chose de son père. Et elle s'écria, les yeux mouillés de larmes, « Grand frère, je suis Goutte de Rosée, ta sœur. En effet, tu ressembles à ma sœur. » fit le prince toujours souriant. Il tendit les mains vers la princesse. Mais des gardes empêchèrent la princesse d'avancer et tinrent à distance les 3 intrus. Certains dégainèrent même leur épée de leur fourreau et fixèrent d'un air suspicieux longue voile qui venait tout juste de descendre de la barque. Ce dernier les ignora, se contentant de ramasser l'épée jetée par la princesse pour l'examiner. Afin d'éviter tout malentendu, il prit prudemment son épée par la pointe. Il remarqua que pendant tout le temps qu'avait duré la traversée, 1/3 seulement du savon avait été utilisé. « Vous devez prouver l'identité de la princesse, » déclara un vieil homme. Ses vêtements royaux, bien qu'usés, étaient impeccablement propres. Son visage portait les marques du temps, mais sa barbe était parfaitement taillée. En dépit des nombreuses années passées sur cette île déserte, il s'efforçait de toute évidence de conserver l'allure qui seyait à un officier du palais. « Ne me reconnaissez-vous donc pas? Vous êtes le tuteur Bois Sombre. « Et lui ?» fit Tante Largesse en pointant l'autre vieillard. « C'est le précepteur Grandchamp !» Les 2 vieillards hochèrent la tête, puis le précepteur lâcha. « Tante Largesse, vous avez vieilli. »« Que devrais-je dire de vous ?» rétorqua Tante Largesse, se servant de sa main libre pour essuyer ses larmes. Le tuteur Bois Sombre resta de marbre et reprit sur un ton imperturbable. « Cela fait plus de 20 ans. Nous ignorons totalement quelle est la situation du royaume et nous devons donc prouver l'identité de la princesse. » Il se tourna vers celle-ci. « Acceptez-vous de vous soumettre à l'épreuve de la reconnaissance du sang ?» La princesse opina du chef. « Je ne suis pas sûr que cela soit nécessaire. C'est bien ma sœur, » dit le prince. « Votre Majesté, c'est une absolue nécessité, » dit le tuteur. Quelqu'un apporta 2 petites dagues. En donna une au tuteur et l'autre au précepteur. À la différence des épées rouillées des gardes, ces 2 armes brillaient encore d'un éclat froid, comme si elles n'avaient jamais servi. La princesse tendit la main
et le tuteur effleura délicatement son index blanc et délicat, puis, avec le bout de la lame, il récupéra une goutte de sang. Le précepteur Grandchamp fit de même avec l'index du prince, puis le tuteur prit la dague des mains du précepteur et mêla minutieusement les deux gouttes. Le sang devint aussitôt d'un bleu pur.
« C'est bien la princesse Goutte de Rosée !» annonça solennellement Bois Sombre au prince, puis le précepteur et lui s'inclinèrent devant la princesse, aussitôt suivis par tous les autres hommes qui s'agenouillèrent, la main sur la garde de leur épée, avant de se relever et de s'écarter pour laisser le prince et la princesse s'enlacer comme frères et sœurs.
« Je me souviens t'avoir prise dans mes bras quand tu étais enfant. Tu n'étais pas plus grande que ça, » sourit Eau Profonde.
D'une voix sanglotante, la princesse raconta à son frère ce qui se passait au palais. Celui-ci l'écouta calmement, sa main posée sur la sienne. Son visage était marqué par les affres du temps, mais il était encore jeune. Il demeura calme et stoïque tout au long du récit de Goutte de Rosée. Tous étaient rassemblés autour du prince et de la princesse, écoutant avec attention son histoire. Seul Longuevoile semblait se livrer à un bien étrange manège. Il s'approchait du prince et l'instant d'après repartait en courant, loin de la plage, pour l'observer. Il répéta cette action un grand nombre de fois, jusqu'à ce que Tante Largesse la grippe enfin.
« Je te l'avais bien dit que le prince Eau Profonde n'était pas un géant, » murmura-t-elle en désignant le prince.
« C'est un géant et ça n'en est pas un, » souffla à voix basse le chef des gardes.
« Quand vous observez une personne normale, vous la voyez plus petite à mesure que vous vous éloignez d'elle, n'est-ce pas ? Eh bien, ce n'est pas le cas du prince. Peu importe la distance, il a toujours la même taille. Ordinaire quand nous sommes à côté de lui et immense quand nous nous en éloignons. Voilà la raison pour laquelle il ressemble à un géant. »
« On dirait que tu as raison, » confessa Tante Largesse en hochant la tête. Quand il eut fini d'écouter le récit de la princesse, le prince Eau Profonde ne prononça qu'une seule phrase « Rentrons ». Ce furent donc deux bateaux qui appareillèrent et firent cap vers le royaume sans histoire. Le prince rejoignit les trois nouveaux arrivants sur leur barque, et les huit autres hommes prirent place sur une embarcation plus grande, celle-là même qui les avait conduits jusqu'à l'île des Tombes 20 ans plus tôt. Le bateau fuyait en certains endroits et il fallait régulièrement écoper, mais il suffirait pour effectuer le court trajet vers la côte opposée. La mousse de savon du voyage à aller s'était quelque peu dissipée depuis leur arrivée sur l'île, mais un nombre incroyable de tahotiers flânait encore indolemment à la surface. Certains se firent heurter par la proue ou par les rames, mais ils se contentèrent de remuer paresseusement. La voile déchirée du grand bateau était encore utilisable et elle ouvrait la route à travers les bancs de tahotiers marins flottants pour la petite barque qui le suivait.
« Nous ferions tout aussi bien d'immerger à nouveau le savon dans l'eau, ce serait plus sûr. Que fera-t-on s'il se réveille ?»
s'inquiéta Tante Largesse à la vue des tahotiers noirs rassemblés autour de l'esquif.
« Ils ne dorment pas, » rectifia la princesse. « Ils sont juste dans un confort tel qu'ils n'ont pas envie de bouger. Il ne nous reste que la moitié d'un savon, ne le gaspillons pas.
C'est que j'en ai encore besoin pour mes bains. »
Quelqu'un sur le grand bateau devant eux s'écria.
« La garnison royale !»
Au loin, on voyait une troupe de cavaliers en train de fondre vers la plage telle une marée noirâtre. Les casques et les épées des soldats étincelaient sous les rayons du soleil.
« Continuez !» fit calmement le prince Eau Profonde.
« Ils viennent nous tuer !»
dit la princesse, le visage blême.
Ne crains rien, tout se passera pour le mieux,
la rassura le prince en lui tapotant la main. Goutte de Rosée regarda son grand frère. Elle comprenait que la couronne lui siérait mieux qu'à elle. Comme le vent leur était favorable, le voyage de retour fut rapide, en dépit de l'obstacle constitué par les bancs flottants de tahotiers. Quand les deux bateaux accostèrent sur la plage, ils se retrouvèrent aussitôt encerclés par les soldats de la garnison royale qui leur barrèrent la route comme une muraille infranchissable.
La princesse et sa nourrice étaient terrifiées, mais le chef des gardes, riche de son expérience, était plus rassuré. Il voyait bien que les épées des soldats étaient rangées dans leurs fourreaux et que leurs lances étaient maintenues à la verticale. Plus important encore, il remarqua les yeux de ses cavaliers que ne dissimulaient pas totalement leurs casques. Ceux-ci observaient avec émerveillement le couloir de mousse où flottait les tahotiers. Un officier descendit de cheval et s'approcha en courant des bateaux. Leurs passagers débarquèrent. Le tuteur, le précepteur et les gardes en armes formèrent un bouclier humain protégeant le prince et la princesse.
« Voici venu le prince Eau Profonde et la princesse Goutte de Rosée. Montrez-leur le respect digne de leur rang !» cria Bois Sombre à l'adresse de l'officier.
Ce dernier planta son épée dans le sable de la plage et s'agenouilla devant les deux membres de la famille royale.
« Nous le savons, mais nous avons reçu l'ordre de poursuivre et de tuer la princesse. La princesse Goutte de Rosée est l'héritière légitime du trône. Sable Glacé est un félon coupable d'avoir assassiné le roi et la reine. Comment pouvez-vous suivre ses ordres ?»«
Nous le savons, et c'est pourquoi nous n'exécuterons pas son ordre. Cependant, le prince Sable Glacé a été officiellement couronné hier après-midi, et la garnison ignore aujourd'hui qui écouter. »
Bois Sombre s'apprêtait à répondre lorsque le prince Eau Profonde s'avança et parla à sa place.
« Je vous propose ceci. La princesse et moi rentrerons avec vous au palais. Nous nous confronterons au prince Sable Glacé et nous résoudrons cette affaire une fois pour toutes. »
Dans la plus luxueuse salle du palais, le prince Sable Glacé, la couronne royale sur le front, festoyait gaiement avec les ministres qu'il avait ralliés à sa cause. Soudain, un éclaireur lui rapporta que le prince Eau Profonde et la princesse Goutte de Rosée faisaient route vers le palais, sous l'escorte de la garnison royale. Il serait au château dans une heure. Dans la salle, la nouvelle fut aussitôt accueillie par un silence de mort.
« Eau Profonde, comment a-t-il pu franchir la mer des tahotiers ? Il lui a donc poussé des ailes ?»
marmonna Sable Glacé pour lui-même, mais son visage était loin d'être aussi horrifié que ceux des ministres.
« Il n'y a rien à craindre. Tant que je serai en vie, la garnison n'obéira pas aux ordres d'Eau Profonde et de Goutte de Rosée. Chat d'aiguille !»
Répondant à l'appel de Sable Glacé, le peintre sortit sans un bruit de la pénombre, toujours drapé de sa robe de moine grise. Il semblait avoir encore maigri.
« Prends avec toi tes pinceaux et ton papier de vague neigeuse et chevauche à la rencontre d'Eau Profonde. Regarde-le et peins-le. Il ne te sera pas difficile de le voir. Tu n'auras même pas besoin de l'approcher. Il te suffira de l'observer à l'horizon. »«
Oui, mon roi, »
murmura Chat d'Aiguille à voix basse. Puis il se faufila hors de la salle aussi discrètement qu'une souris.
« Quant à Goutte de Rosée, ce n'est qu'une femme, elle est inoffensive. » « Je me débrouillerai bien pour lui arracher ce parapluie, » dit Sable Glacé.
Puis il leva à nouveau son verre de vin. Le banquet se termina dans une atmosphère pesante. Les ministres prirent congé, l'esprit inquiet. Il ne resta bientôt plus dans cette grande salle que Sable Glacé. Sa mine était sombre. Au bout d'un certain temps, Sable Glacé vit revenir Chat d'Aiguille. Son cœur se serra aussitôt, non pas à cause de ses mains vides ou de son regard, le peintre n'avait pas l'air d'avoir changé, il paraissait toujours aussi sensible et prudent, mais parce que le prince pouvait maintenant entendre ses pas. Jusqu'ici, le peintre s'était toujours déplacé en glissant sur le sol à la manière d'un rongeur, mais désormais, son pas était lourd et sonore. Sable Glacé eut bien du mal à ralentir les battements de son cœur.
« Votre Majesté, j'ai vu le prince Eau Profonde, mais je n'ai pas pu le peindre, »
rapporta Chat d'Aiguille, la tête baissée.
« Lui a-t-il donc véritablement poussé des ailes ?» l'interrogea froidement Sable Glacé.
« Si c'était le cas, il m'aurait été possible de le peindre. J'aurais pu dessiner avec fidélité la moindre de ses plumes. Cependant, mon roi, le prince Eau Profonde n'a pas d'ailes. C'est encore plus terrible que ça. » Il n'obéit pas aux lois de la perspective.
Qu'est-ce que la perspective ?
Selon les principes de la perspective, plus on s'approche d'un objet, plus il nous apparaît grand. Plus on s'en éloigne, plus il est petit. J'ai appris l'art de la peinture occidentale, et je dois respecter les lois de la perspective. Je ne peux donc pas le peindre.
Existe-t-il donc des écoles de peinture qui peuvent se passer de ces lois ?
Oui, mon roi, l'art oriental.
Voyez-vous même.
Chat d'aiguille montra un rouleau de peinture à l'encre accroché au mur de la salle. Il représentait un paysage délicat et dépouillé, dont une grande partie, laissée blanche, pouvait tout aussi bien être de la brume que de l'eau. Le contraste avec les peintures chargées de couleurs d'à côté était saisissant.
« Mon roi, vous pouvez constater que cette peinture ne respecte pas les lois de la perspective, mais par malheur, je n'ai jamais appris la peinture orientale. Améthéré n'a pas voulu me l'enseigner, peut-être en prédiction de ce jour. »
« Va, » fit le prince d'une voix lasse. « Soit, majesté, le prince aux profondes arrivera bientôt au palais. Il me tuera et il vous tuera. Mais je n'attendrai pas la mort ici, je mettrai moi-même fin à mes jours. Je peindrai mon chef-d'œuvre. »
Puis le peintre Chat d'aiguille s'en alla, d'un pas redevenu silencieux. Sable glacé fit venir ses gardes.
« Apportez-moi mon épée. »
Dehors résonnèrent des bruits de sabots. Tout d'abord étouffés, ils se firent de plus en plus proches et aussi tonitruants que le tonnerre. Puis ils cessèrent enfin lorsqu'ils eurent atteint la porte de la grande salle. Sable glacé se leva, se saisit de son épée et sortit. Il vit le prince aux profondes gravir les longues et larges marches de pierre qui menaient à la salle, la princesse Goutte de Rosée marchant derrière lui, tante Largesse agitant toujours le parapluie pour elle. Sur la place, derrière les marches, étaient rassemblés les soldats de la garnison royale. Ils attendaient en silence, sans montrer clairement quel camp ils soutenaient. Dès l'instant où Sable glacé vit le prince aux profondes, il remarqua qu'il était deux fois plus grand qu'un homme normal, mais à mesure qu'il grimpait les escaliers, sa taille se réduisait peu à peu. L'espace d'un instant, les pensées de Sable glacé le ramenèrent 20 ans en arrière à l'époque de leur enfance. En ce temps-là, il avait appris que les Tahotiers étaient en train de se rassembler autour de l'île des tombes, mais il y avait pourtant envoyé pêcher son frère. Le roi était souffrant. Et Sable glacé avait prétendu que se trouvait dans une rivière de l'île des tombes un poisson dont l'huile de foie aurait le pouvoir de guérir leur père. Aux profondes, d'ordinaire si prudent, avait cru les paroles de son frère, et il avait embarqué pour un voyage sans retour. Personne au royaume n'avait jamais rien su de ce complot ourdi par Sable glacé. Et c'était sans doute celui dont il avait toujours été le plus fier. Sable glacé interrompit vite ses divagations et revint à la réalité. Aux profondes était déjà arrivé sur le perron de la salle. Sa taille était redevenue celle d'un homme ordinaire.
« Mon frère, je suis heureux de vous voir, ma sœur et toi !» clama Sable glacé.
« Mais vous devez comprendre qu'à présent je suis le souverain de ce royaume. Je vous ordonne de vous rendre !»
Aux profondes plaça une de ses mains sur la garde de l'épée rouillée attachée à sa ceinture, et de l'autre, il désigna Sable glacé.
« Tes crimes sont impardonnables !»
Sable glacé eut un rire froid.
« Chat d'aiguille n'a peut-être pas pu capturer ton âme, mais moi, je saurais t'en brocher le cœur !»
Puis il dégaina son arme de son fourreau.
Les deux frères étaient de force égale, mais Eau Profonde n'étant pas soumis aux lois de la perspective, Sable glacé avait bien du mal à déterminer la distance réelle entre lui et son adversaire et était désavantagé. Le duel se termina vite. Sable glacé eut la poitrine transpercée par un coup d'épée d'Eau Profonde. Il dégringola le long des escaliers, laissant une longue traînée de sang sur les marches de pierre. Les soldats de la garnison royale acclamèrent le vainqueur et prêtèrent allégeance au prince aux profondes et à la princesse Goutte de Rosée. Pendant ce temps, Longuevoile était parti à la recherche du peintre Chat d'aiguille qui se cachait quelque part à l'intérieur du palais. quelqu'un lui rapporta avoir vu le peintre se rendre dans son atelier. La pièce se situait dans un recoin excentré du palais. Il ne restait plus qu'un garde devant sa porte, car tous les autres étaient partis à la poursuite de la princesse. C'était un homme de longue voile. Il lui indiqua que Chat d'Aiguille était entré dans l'atelier une demi-heure plus tôt et qu'il n'en était pas sorti depuis. Longue voile força la porte. Il n'y avait pas de fenêtre dans l'atelier et les deux bougies du chandelier d'argent étaient presque entièrement consumées, si bien que la pièce avait des airs d'abri souterrain sombre et froid. Le chef des gardes ne vit pas Chat d'Aiguille. L'atelier était vide. Il remarqua néanmoins un portrait sur le chevalet. La peinture n'était pas encore sèche. L'autoportrait du peintre. C'était un véritable chef-d'œuvre. La surface de la peinture semblait être une fenêtre ouverte sur un autre monde, et Chat d'Aiguille paraissait le regarder depuis ce monde. Les coins du papier de vagues neigeuses constituaient la seule preuve rappelant qu'il s'agissait bien d'une peinture sans vie. Longue voile détourna tout de même son regard des yeux perçants du peintre maléfique. Il regarda tout autour de lui. Il vit accrochés au mur les portraits du roi, de la reine et des ministres qui leur étaient loyaux. Il reconnut au milieu celui de la princesse Goutte de Rosée. Elle illuminait l'obscurité de cet atelier sombre. Les yeux de la princesse saisirent son âme et il resta un long moment enivré par sa beauté. Mais Longue Voile finit par retrouver ses sens, il ôta la peinture de son cadre, la froissa et, sans hésiter, il l'enflamma à l'aide de la bougie. La peinture venait tout juste de finir de brûler quand la porte s'ouvrit, laissant entrer la véritable princesse Goutte de Rosée. Elle était toujours vêtue de son costume de roturière et agitait elle-même le parapluie. « Et tante Largesse ?» demanda Longue Voile. « Je ne l'ai pas laissée entrer, j'avais à te parler. « J'ai brûlé votre peinture, » lui expliqua Longue Voile en désignant les cendres encore rougeâtres sur le sol. « Vous n'avez plus besoin de parapluie. » La princesse ralentit le rythme du parapluie et un chant de rossignol se mit à surgir de celui-ci. Son volume augmentait à mesure que s'affaissait le parapluie. Le chant se transforma finalement en un croassement de corneille. C'était le dernier avertissement avant l'arrivée de la mort. Quand le parapluie se referma, les bruits d'entrechoc des billes de pierre suspendues aux baleines cessèrent. La princesse était saine et sauve. Le chef des gardes la regarda, puis il poussa un long soupir de soulagement et se baissa pour observer les cendres. Quel dommage! C'était une peinture magnifique. J'aurais aimé vous la montrer, princesse, mais je n'ai pas voulu attendre davantage. Il vous a peint avec une telle beauté.
Était-elle plus belle que moi?
C'était vous, répondit Longue Voile, la voix chargée d'émotion. La princesse sortit de sa poche ses deux savons de Herxingen Mosiken. Elle les lâcha, et ceux-ci flottèrent dans l'air comme des plumes. Je vais quitter le royaume, prendre la mer. Veux-tu m'accompagner?
Comment?
Mais le prince aux profondes n'a-t-il pas annoncé que vous seriez couronné demain? Il a même dit qu'il vous aiderait du mieux qu'il pourrait à gouverner le royaume. La princesse secoua la tête. Mon frère fera un meilleur roi que moi. D'ailleurs, s'il ne s'était pas retrouvé emprisonné sur l'île des tombes, c'est lui qui aurait hérité du trône. S'il devient roi, tous pourront le voir, peu importe à quelle distance il se trouvera.
Quant à moi, je refuse de devenir reine. Je serai plus heureuse à l'extérieur du royaume. Je ne veux pas passer le restant de mes jours dans un royaume sans histoire. Je veux aller là où s'écrivent les histoires.
C'est une vie pleine d'épreuves et de dangers. Je n'ai pas peur. Les deux yeux de la princesse scintillaient dans la lueur de la bougie et tout s'illumina à nouveau autour de Longue Voile.
« Moi non plus, je n'ai pas peur, princesse. Je vous suivrai jusqu'au bout de la mer, jusqu'au bout du monde. »«
Alors nous serons les deux derniers sujets à quitter ce royaume, » dit la princesse.
puis elle attrapa les deux savons qui flottaient encore.
« Cette fois, nous prendrons un voilier. »
« Oui, un voilier avec une voile blanche. » Le lendemain matin, on vit apparaître un long sillage blanc sur la surface de la mer. À son extrémité, un voilier traînait derrière lui un couloir de mousse qui ressemblait à un grand nuage blanc. Il faisait cap vers le levant. Nul au royaume n'eut jamais plus aucune nouvelle de la princesse Goutte de Rosée et du chef des gardes Longue Voile, ni d'ailleurs aucune nouvelle du monde extérieur. La princesse avait emporté les deux derniers savons de Erxingen Mosiken, et il était désormais impossible de franchir la barrière constituée par les Taotiers. Mais personne ne s'en plaignit, car les gens s'étaient habitués à cette vie. Quand cette histoire s'acheva, il n'y eut plus jamais aucune autre histoire au sein du royaume sans histoire. Mais parfois, quand venait la nuit et que le calme se faisait, on se racontait des histoires qui n'en étaient pas vraiment, celles de la princesse Goutte de Rosée et de Longue Voile. Chacun imaginait des récits différents, mais tous s'accordaient sur un point. Ils avaient traversé d'innombrables pays mystérieux, s'étaient rendus sur des continents aussi vastes que la mer, et ils voyageaient encore, sur la terre ou sur les flots. Peu importait leur destination, car ils vivraient heureux, ensemble, jusqu'à la fin des temps. Dans la chambre anti-intellectron, ceux qui avaient fini de lire l'histoire commencèrent à échanger à voix basse. Mais beaucoup étaient encore immergés dans le monde du royaume sans histoire, de la mère des Taotiers, de la princesse et des princes. Certains étaient plongés dans leurs pensées, d'autres avaient le regard figé sur le dossier qu'ils venaient de refermer, comme si la couverture pouvait leur en offrir encore davantage.
« Cette princesse, elle te ressemble beaucoup ?» dit A.A. à Chung-Sin.
« Concentre-toi sur les choses sérieuses. Et puis tu me trouves vraiment si délicate ?»
« Il me semble que j'agiterai moi-même mon parapluie !» protesta Chung-Sin.
C'était la seule dans la chambre à ne pas avoir lu les documents. Elle pouvait encore réciter ses histoires par cœur. Bien entendu, elle s'était déjà demandé si elle avait pu servir de modèle à la princesse Goutte de Rosée. Elle devait bien admettre qu'il existait quelques similitudes, mais rien dans le chef des gardes Longue Voile ne lui rappelait Yun Tianming.
« Croit-il vraiment que je mettrai les voiles pour un long voyage avec un autre homme ?»
Quand le président constata que tous les participants avaient fini leur lecture, il les invita à exprimer leur opinion, afin de fixer des priorités pour les prochaines étapes de travail de chaque unité du CRD. Le responsable de l'unité littéraire demanda la parole. Ce groupe de travail avait été créé à la toute dernière minute, juste au cas où. Il était principalement composé d'écrivains et de chercheurs spécialistes de la littérature de l'ère commune. L'homme était un auteur de contes pour enfants.
« Je suis conscient que notre unité n'apportera qu'une contribution mineure dans le travail qui nous attend. C'est pourquoi je souhaiterais profiter de cette occasion pour dire quelques mots. »
Il saisit le dossier à couverture bleue qui contenait les documents et le brandit.
« Je suis au regret de vous dire qu'à mon avis, ces renseignements ne pourront jamais être décryptés. »«
Pourquoi cela ?» demanda le président.
« Entendons-nous d'abord sur notre démarche. Nous souhaitons déterminer à partir de ces documents une direction stratégique pour le futur de l'humanité, n'est-ce pas ? Si cette information existe bien, quel que soit son contenu, son sens doit donc être concret. Nous ne pouvons pas lancer une stratégie de grande ampleur sur la seule base d'un message flou et ambigu. Or, le flou et l'ambiguïté sont précisément ce qui définit une œuvre littéraire. Pour des raisons de sécurité, les renseignements réels transmis par Yun Tianming ont dû être cachés profondément dans les trois contes, ce qui accroît d'autant plus le flou et l'ambiguïté entretenus par ces histoires. C'est pourquoi la plus grande difficulté à laquelle nous serons confrontés ne sera pas l'absence d'éléments pouvant être interprétés, mais le nombre trop important d'interprétations possibles. Nous n'aurons aucun moyen de savoir si nous avons vu juste.
Je voudrais enfin terminer par cette phrase, bien qu'elle soit sans intérêt pour nos recherches. En tant qu'écrivain moi-même, je souhaiterais exprimer toute mon admiration pour Yun Tianming. Si on ne les lit que comme des contes, ces histoires sont très réussies.
Ce fut le lendemain que commença le véritable travail de décryptage des renseignements transmis par Yun Tianming. Bien vite, les membres du comité de renseignement et de décryptage comprirent que l'écrivain avait vu juste. Les trois histoires de Yun Tianming étaient si riches en métaphores, allusions et autres symboles que n'importe quel élément pouvait en effet être interprété de diverses façons. Et chacune de ces interprétations possédait sa logique et sa raison interne. Toutefois, il n'y avait aucune assurance que celles-ci correspondent au message de l'auteur. Par conséquent, aucune d'entre elles ne pouvait être érigée en stratégie concrète pour le futur de l'humanité. Par exemple, l'idée de capturer un individu dans une peinture présente dès le début du texte était de toute évidence une métaphore, mais les experts des différentes unités ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur son sens. Certains considéraient que la peinture symbolisait la numérisation et l'informatisation croissante du monde réel, et que ce détail de l'histoire suggérait donc aux êtres humains de se numériser à leur tour afin d'éviter les attaques de la forêt sombre. Les experts qui soutenaient cette hypothèse faisaient aussi remarquer que les personnages disparaissant dans les peintures cessaient du même coup d'être des menaces pour le monde. La numérisation de l'humanité représentait peut-être aussi un moyen de traduire en acte la déclaration de sécurité cosmique. Toutefois, d'autres avaient un point de vue différent, estimant que la métaphore faisait forcément référence aux différentes dimensions spatiales. Le monde réel et le monde des peintures représentaient en effet deux dimensions différentes. Lorsqu'un personnage était peint, il disparaissait du monde tridimensionnel. Cela n'était pas sans rappeler les expériences de l'espace bleu et du gravité dans le fragment quadridimensionnel. L'auteur voulait-il ainsi suggérer que les humains pouvaient utiliser la quatrième dimension comme refuge, ou bien utiliser celle-ci pour envoyer leur déclaration de sécurité cosmique? D'autres experts rappelaient par ailleurs que la non-concordance du prince eau profonde avec les lois de la perspective évoquait aussi la quatrième dimension. Il y avait d'autres exemples similaires. Que signifiaient les Taotiers? Certains se focalisaient sur leur nombre, leur capacité de camouflage, leur agressivité et la puissance de leurs attaques, pour affirmer qu'ils symbolisaient l'ensemble des civilisations de l'univers peuplant la forêt sombre. Cette interprétation laissait penser que le savon utilisé par les personnages pour rendre les créatures inoffensives était un moyen encore inconnu d'effectuer une déclaration de sécurité cosmique. Il existait néanmoins des conclusions allant dans le sens opposé. Les Taotiers étaient des machines minuscules mais autorépliquantes. Une fois envoyées dans l'espace, elles utiliseraient de la poussière spatiale ou toute autre matière trouvée dans la ceinture de Kuiper ou le nuage d'Oort pour se reproduire en grand nombre et former un rempart intelligent autour du système solaire. Cette barrière artificielle pouvait avoir toutes sortes de fonctions possibles. Par exemple, intercepter une attaque de particules de lumière envoyée vers le système solaire, ou bien mettre en évidence une particularité du système solaire telle que, détectée depuis une certaine distance, celle-ci puisse prouver qu'elle était sûre. Cette interprétation, appelée hypothèse du banc de poisson, était celle qui suscitait le plus d'attention, car contrairement aux autres interprétations, elle avait des contours technologiques relativement clairs. Elle fut donc l'une des premières à être soumise à l'Académie des sciences mondiales pour des recherches avancées. Cependant, le CRD ne plaçait guère d'espoir dans cette interprétation. Si c'était celle qui semblait technologiquement la plus envisageable, les premières conclusions des recherches révélaient qu'il faudrait plusieurs dizaines de milliers d'années pour que les poissons s'auto-répliquent en nombre suffisant pour former une véritable muraille autour du système solaire. Par ailleurs, l'efficacité en matière de défense ou de déclaration de sécurité cosmique des machines serait forcément limitée par l'intelligence artificielle. Au grand dam de beaucoup, l'hypothèse du banc de poisson fut donc abandonnée.
Un grand nombre d'éléments restaient encore à décrypter. Le parapluie qui protégeait la princesse, le mystérieux papier de vague neigeuse, le savon extraordinaire. Comme l'avait pointé l'écrivain, toutes ces interprétations étaient peut-être exactes, mais incertaines. Cependant, tous les éléments des contes n'étaient pas aussi obscurs et équivoques. Il y avait au moins un détail sur lequel les experts du CRD étaient d'accord pour dire qu'il détenait une information et que celle-ci constituait peut-être même la clé de tout le récit de Yun Tianming. Cet étrange toponyme, Erxingen Mosiken. Yun Tianming avait raconté ces trois contes en mandarin de l'ère commune. On avait remarqué que chacun des personnages et des lieux portait des noms chinois dont la signification était claire. Le royaume sans histoire, la mer des Taotiers, l'île des tombes, la princesse goutte de rosée, les princes sable glacé et eau profonde, les peintres chat d'aiguille et âme éthérée, le chef des gardes longue voile, tante largesse, etc. Toutefois, au milieu de ceux-ci, surgissait ce qui ressemblait à la transcription d'un toponyme étranger, à la fois très long et phonétiquement étrange. De plus, cet endroit mystérieux était mentionné à maintes reprises dans les trois contes à une fréquence qui frisait l'obsession. Chat d'aiguille et âme éthérée étaient originaires de Erxingen Mosiken, de même que le papier de vague neigeuse, le fer et la dalle d'obsidienne, le chef des gardes, les savons et même les taotiers. L'auteur paraissait lourdement insister sur l'importance de ce toponyme. Néanmoins, aucune description concrète n'en avait été donnée. Était-ce une grande île comme le royaume sans histoire? Un continent? Un archipel? On l'ignorait. On ne savait pas non plus de quelle langue ce mot était originaire. Au moment de son départ, le niveau d'anglais de Yun Tianming était sommaire et il n'avait jamais appris aucune autre langue. Bien entendu, il n'était pas à exclure qu'il ait pu en apprendre plus tard. Le mot ne semblait pas être issu de l'anglais, ni non plus d'aucune langue romane. Ce n'était pas non plus du trisolarien, car la langue trisolarienne ne comportait aucun son. Les experts de l'unité concernée tentèrent de transcrire le nom de Erxingen Mosiken dans les langues connues. Un grand nombre de linguistes furent consultés. On chercha aussi dans des bases de données de toutes sortes encore disponibles sur le net. Mais les résultats ne furent pas fructueux. Devant ce nom bizarre, même les scientifiques les plus brillants s'avouaient impuissants. Des responsables de plusieurs unités demandèrent à Cheng Xin si elle était bien sûre de la prononciation de Yun Tianming. Cheng Xin était formelle. Elle aussi avait remarqué la sonorité étrange de ce toponyme et s'était appliquée à bien le mémoriser. De plus, Yun Tianming n'avait eu de cesse de le répéter tout au long de son récit. Elle ne pouvait pas s'être trompée. Le travail de décryptage du CRD était au point mort. Mais ses difficultés étaient prévisibles. Si les humains avaient pu déchiffrer aussi facilement les renseignements stratégiques donnés par Yun Tianming dans son histoire, les trisolariens les auraient décelés aussi. Les informations les plus cruciales devaient donc être profondément dissimulées dans les histoires. Les experts de chaque unité s'épuisaient à la tâche. L'électricité statique et l'odeur âcre des chambres anti-intellectrons les rendaient extrêmement nerveux et, en raison des interprétations ouvertes des contes, des clans se formaient au sein même des unités, donnant lieu à des débats incessants. Face à cette impasse, certains membres du CRD commencèrent même à douter que les trois histoires contiennent véritablement des informations stratégiques significatives. Ces doutes se portaient surtout sur la personne de Yun Tianming. Après tout, celui-ci n'était qu'un homme de l'ère commune, titulaire d'une simple licence universitaire. Ses connaissances atteignaient à peine celles d'un collégien d'aujourd'hui. Au cours de son expérience professionnelle limitée, avant qu'il prenne part à la mission du programme Escalier, il n'avait principalement effectué que des tâches basiques.
Il n'avait aucune expérience de chercheur, et on était dubitatif quant à ses connaissances en matière de théorie fondamentale. Même s'il avait pu effectuer des recherches depuis sa capture et son clonage, il était possible d'émettre des doutes sur sa capacité à assimiler les super-technologies trisolariennes, et en particulier les théories sur lesquelles elles reposaient. Avec le temps, le CRD se retrouva à devoir faire face à de nouvelles difficultés inévitables. Au début, chacun était concentré sur la résolution de l'énigme qui permettrait de montrer la voie de la survie à l'humanité. Mais petit à petit, on vit poindre le spectre de toutes sortes d'entités politiques et de groupes de défense d'intérêts. Flottes internationales, Nations Unies, simples nations, entreprises multinationales ou encore institutions religieuses qui proposèrent des interprétations uniquement destinées à servir leurs intérêts politiques et financiers, se servant des contes comme d'un outil de propagande politique. Bientôt, les histoires de Yun Tianming devinrent des paniers vides que n'importe qui pouvait remplir de n'importe quoi. Le travail de décryptage du CRD en fut sévèrement impacté, et les débats entre différentes factions devinrent de plus en plus idéologiques et utilitaristes. Le moral était au plus bas. Mais cette impossibilité à interpréter les renseignements fournis par Yun Tianming produisit un effet positif. Elle força l'humanité à abandonner l'idée d'un illusoire miracle. En réalité, le grand public avait depuis longtemps cessé de croire au miracle, car il ignorait l'existence du rapport de Yun Tianming. La pression politique que faisait peser la population obligea les flottes internationales et les Nations Unies à détourner leur attention de Yun Tianming pour développer des technologies qui pourraient permettre de sauver la civilisation terrienne. À l'échelle de l'univers, la destruction du monde trisolarien s'était produite à une distance extrêmement proche, ce qui donnait aux humains la chance de pouvoir mener une observation complète et détaillée du processus d'anéantissement de l'étoile et de recueillir un grand nombre de données. La masse et la position sur la séquence principale de l'étoile détruite étaient très similaires à celles du Soleil, ce qui permettait de créer un modèle mathématique précis en cas d'attaque de la forêt sombre dans le système solaire. À vrai dire, les recherches à ce sujet avaient commencé au moment même où l'information lumineuse de l'anéantissement de Trisolaris était parvenue sur Terre. Les résultats de ces recherches menèrent directement à la naissance du projet Bunker, qui avait désormais remplacé le rapport de Yun Tianming comme nouvel épicentre de l'attention de la communauté internationale.